Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Y aura-t-il un volet français de l'affaire Epstein? Le milliardaire américain accusé de pédophilie séjournait fréquemment en France. Il pourrait y avoir des victimes françaises. Le parquet de Paris étudie la question, nous dira Sarah Guivaudot. Après le drame, question sur le naufrage qui a coûté la vie à 3 enfants hier dans la Manche. Les mesures de sécurité ont-elles été respectées? Vous entendrez le témoignage d'un plaisancier. L'or, valeur refuge, le cours du métal précieux est au plus haut. Reportage auprès de courtiers parisiens dans ce journal. Hong Kong toujours sous tension, les vols ont repris aujourd'hui, mais la chef de l'exécutif hausse le ton. Les protestataires redoutent toujours une intervention de Pékin. Les tensions avec la Chine, on en parle entre autres avec votre invité Pierre Veil.
Oui, à 8h20, le grand entretien avec Françoise Bourg, conseiller à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Question sur la situation à Hong Kong, les liens avec la Chine, la possible répression chinoise, mais aussi question concernant la situation en Italie, Daesh en Irak, les tensions dans le détroit d'Ormuz, le bilan de la présidence Trump. Vos questions pour Françoise Bourg. Le standard est à votre disposition. 01 45 24 7000.
Et puis un documentaire à voir en salle mercredi pour tout comprendre à l'affaire Weinstein. L'ascension et la chute du producteur le plus puissant d'Hollywood, raconté par ceux qui l'ont connu.
France Inter.
La justice française va-t-elle se saisir de l'affaire Epstein 3 jours après la mort du milliardaire américain retrouvé pendu dans sa cellule de prison? L'enquête ne fait que commencer sur le réseau qui lui aurait permis d'abuser sexuellement des dizaines de jeunes filles. Le ministre de la Justice américain l'affirme, aucun complice ne dormira tranquille. Le FBI multiplie les perquisitions, dernière en date, sur une île des Caraïbes, propriété de l'homme d'affaires. En France, où Epstein séjournait régulièrement, on n'en est pas là. Hier, les ministres Marlène Schiappa et Aurélien Taquet ont réclamé l'ouverture d'une enquête. Le parquet de Paris, qui est indépendant, étudie en effet la question. Sarah Guivaudot.
Parmi les anciens amis de Jeffrey Epstein, le nom d'un Français a refait surface vendredi avec la publication de 2000 pages de documents par la justice américaine. Il s'agit de Jean-Luc Brunel, un agent de mannequin implanté à Miami et invité parfois à bord du jet surnommé le Lolita Express. Une plaignante l'accuse d'avoir rabattu des mineurs pour des ébats sexuels avec Epstein ou d'avoir fourni une couverture avec des contrats de mannequin. En perquisition dans la luxueuse résidence de Palm Beach, la police a retrouvé des comptes rendus d'appels téléphoniques équivoques datés de 2005. Jean-Luc a un prof pour t'apprendre à parler russe. Elle a 16 ans, peut-on lire sur une de ses notes. Les leçons sont gratuites et tu peux commencer aujourd'hui. Jusqu'ici, le français n'a jamais été mis en cause par la justice américaine et s'est défendu d'avoir participé directement ou indirectement aux actes reprochés à Epstein. En France, si des investigations sont lancées, elles pourraient commencer par l'appartement du milliardaire à 2 pas de l'Arc de Triomphe ou par cette liste de contacts pour des massages à Paris retrouvés dans ce que la presse américaine appelle le livre noir d'Epstein pour rechercher d'éventuelles victimes françaises.
Sarah Guivaudot. Beaucoup de questions encore après la mort de 3 enfants hier dans le naufrage d'un bateau de plaisance au large d'Agon-Coutainville dans la Manche, notamment sur le respect des règles de sécurité et de navigation. Écoutez le témoignage de Jean-François Plaisancier.
On était un petit peu surpris, nous faisons du bateau actuellement et de ce temps-là on ne sort jamais des bateaux. C'est une embarcation de 4,50 m, une petite embarcation assez légère et nous on ne sort pas. Déjà on a des semi-rigides qui sont mieux faits pour la mer que ce genre d'embarcation et c'était vraiment un grand danger de sortir. Ah, il y avait des vagues de 1 mètre là. Et en plus soit on sort quand la mer est haute ou on sort au descendant, mais au montant avec des vagues comme ça c'est dangereux. Malheureusement c'est un drame, ça fait peur. Il faut rester prudent, la mer est plus forte que nous.
Témoignage recueilli par Lucie Tillier. Le parquet de Coutances a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises du naufrage. Elle est la 88e femme à mourir en 2019 sous les coups de son conjoint ou ex-compagnon. Une femme poignardée à mort par son mari. Ça s'est passé hier soir dans la rue à Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales. Elle avait 71 ans.
Corinne Audouin, suite de notre série sur l'état des partis en France. Au menu aujourd'hui, les Républicains en plein doute.
Et 3 candidats vont se disputer la présidence du parti de droite. Le dépôt des parrainages se termine ce soir, mais le suspense est mince. Christian Jacob, le favori, patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, et les députés Guillaume Larrivé et Julien Aubert espèrent succéder à Laurent Wauquiez, démissionnaire après la claque des élections européennes. Ce sera une campagne à bas bruit, sans grand nom, pour un parti en crise. Maxence Lambrecq.
Chez LR, tout est à refaire depuis la débâcle des européennes et les départs de Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. Et cette élection interne ne risque pas de relancer la machine puisqu'il n'y a aucune tête d'affiche et aucun suspense. C'est Christian Jacob, patron des députés LR depuis 2010, qui devrait l'emporter mi-octobre. Et avec lui, le risque, c'est qu'il n'y ait toujours pas de ligne. Lâchant de ses fidèles, il cherchera le compromis et on va encore s'y perdre. On risque de finir comme le PS, ajoute un autre. En effet, le parti est de plus en plus inaudible à côté d'un RN très offensif et on devrait encore le constater en septembre quand arrivera à l'Assemblée le projet de loi sur l'extension de la PMA. Un tiers des députés LR devraient voter pour, deux tiers contre. Ce parti est devenu une auberge espagnole, constate amer un sénateur. Une auberge à laquelle le patron du Sénat tient encore. Gérard Larcher va reprendre ses conventions thématiques pour garder l'aile centriste, ou plutôt ce qu'il en reste. Et d'ici là, aucune décision ne sera prise en vue des municipales. La direction par intérim ne veut pas s'en mêler. Et de toute façon, l'investiture LR a sacrément perdu de sa valeur. Les listes d'hiver droite vont fleurir cet automne.
Les élus vendéens sont indignés après les dégradations le week-end dernier de la permanence de la députée LREM Modem de Vendée, Patricia Galerno, décédée le 7 juillet dernier d'une longue maladie. Une quinzaine de permanences de députés ou de locaux LREM ont été emmurées ou taguées ces dernières semaines. Cette fois, c'est la bonne. Maintes fois annoncé, le chantier de décontamination du parvis de Notre-Dame commence aujourd'hui. Un nettoyage à très haute pression pour décoller le plomb qui s'est déposé lors de l'incendie de la cathédrale. L'opération devrait durer 5 jours. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge, sans doute le plus vieux placement du monde. Le cours de l'or s'envole, propulsé par la demande internationale. Il a franchi la barre des 1 500 $ l'once. Après les tensions et incertitudes sur l'économie mondiale, l'or est tout particulièrement apprécié des Français. Grégoire Le Callot.
C'est dans un immeuble proche de l'Arc de Triomphe que Laurent Schwartz, courtier en or, a ses bureaux. Il dispose aussi de 2 officines dans Paris pour accueillir les clients.
Il y a une recrudescence d'activité dans nos magasins. Nous voyons plus d'investisseurs qui aujourd'hui se disent que c'est le moment de se positionner sur un marché qui est en pleine effervescence et qui continue d'augmenter pour les autres.
Boudé par les investisseurs dans les années 90, l'or est revenu en grâce au moment de la crise de 2008, comme toujours quand l'économie se met à trembler.
Il y a un phénomène d'érosion monétaire que subissent les monnaies. Ce dont ne souffre pas l'or. L'or conserve aujourd'hui donc un rôle de réserve de valeur.
La guerre commerciale Chine-États-Unis, la chute des taux d'intérêt, la nervosité des marchés actions, l'or a de nouveau tout pour plaire.
Ça fait quand même quelques semaines qu'on atteint des niveaux records en euros et donc on peut parler de fièvre. Nous avons des nouvelles clientèles qu'on ne voyait pas il y a encore plus de 6 mois, qui s'intéressent alors parce qu'ils présentent une garantie pour leur épargne et qu'ils considèrent aujourd'hui que cette épargne est plus en sécurité sur de l'or qu'à la banque, sur des actions, des obligations ou tout autre support d'investissement.
Malgré la fiscalité qui s'est alourdie l'an dernier, le métal jaune reste un placement mythique selon les spécialistes du secteur. Les Français en possèdent quelques 3000 tonnes sous forme de pièces et de lingots.
Un reportage de Grégoire Le Callot. La colère des livreurs de Deliveroo ne faiblit pas. Ils entendent accentuer leur mouvement de grève à la rentrée contre la nouvelle grille de rémunération de la plateforme britannique de livraison de repas à domicile. Et pendant ce temps, en Allemagne, où la concurrence est plus rude, Deliveroo jette l'éponge. La plateforme arrêtera son service à la fin de la semaine. Les explications de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
La société Deliveroo dit vouloir se concentrer sur des marchés plus rentables. Comprenez, ça ne marchait pas assez en Allemagne, où le Britannique a d'abord dû faire face à un acteur local de poids, la société berlinoise Foodora, rachetée au printemps par le néerlandais Takeaway, créant ainsi un leader sur le marché allemand sous la marque Lieferando. C'est le coup de grâce pour Deliveroo qui, 4 mois plus tard, jette l'éponge. Tous ces mouvements sont la preuve que ces acteurs livrent en Europe une bataille acharnée sur ce marché gigantesque de la livraison de repas à domicile, que chacun essaie de se tailler la part la plus importante dans chaque pays, quitte, s'il n'y parvient pas, à s'en retirer totalement et subitement, laissant au passage, dans le cas allemand, 1 millier de livreurs sur le carreau. Avec un préavis très court, ils n'ont été informés qu'hier et par courrier électronique que les dernières livraisons auront lieu jeudi soir, avec la promesse d'une indemnité allant de 50 € minimum à l'équivalent d'un salaire mensuel moyen pour les meilleurs livreurs. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
En Italie, c'est aujourd'hui que l'on connaîtra la date pour le vote de la motion de défiance contre le gouvernement. Motion déposée par la Ligue de Matteo Salvini, qui a fait éclater la coalition au pouvoir depuis 14 mois. Le ministre de l'Intérieur réclame des élections législatives anticipées. À Hong Kong, les autorités haussent le ton pour Carrie Lam, la chef du gouvernement, soutenue par Pékin. Les manifestants entraînent Hong Kong dans une voie sans retour. Hier, l'aéroport a été entièrement paralysé par des milliers de protestants. protestataires. Les vols ont repris aujourd'hui, mais la tension demeure. Correspondant sur place de Zifan Liu.
Le 8e aéroport le plus fréquenté au monde a rouvert ses portes ce matin, mais plus de 200 vols ont dû être annulés à nouveau après une journée de paralysie totale hier. Les autorités ont pris la décision rarissime de supprimer tout le trafic aérien de l'aéroport de Hong Kong, où plus de 5000 manifestants d'après la police s'étaient réunis. Une paralysie dénoncée par Carrie Lam ce matin dans une conférence de presse. La chef de l'exécutif a déclaré que la violence des manifestants poussera la ville vers un chemin sans retour et vers une situation très dangereuse et inquiétante. Un discours qui se durci du côté de Pékin. Pour la première fois, les autorités centrales ont dénoncé les premiers signes de terrorisme des protestataires hongkongais. Et alors que le chaos régnait hier dans l'aéroport, plusieurs médias d'État ont relayé une nouvelle vidéo de blindés de l'armée chinoise dans les rues de Shenzhen, ville frontalière de l'archipel. La vidéo est accompagnée d'une légende qui explique que les militaires se préparent à des exercices de grande ampleur, brandissant encore une fois la menace d'une intervention qui mettrait fin, pour de bon, à la formule « un pays, deux systèmes ». Pékin, Zifan Liu, France Inter.
Il est 8h11, Corinne, c'est peut-être un futur Notre-Dame-des-Landes. En Vendée, à Bretignolles-sur-Mer, un projet de port de plaisance sème la discorde.
Oui, la préfecture vient de donner son feu vert. Il s'agit de répondre à la saturation des ports vendéens. La mairie y est très favorable, mais certains élus dénoncent un non-sens écologique. Ils défendent leur plage préservée et prévoient de manifester cet après-midi. Célia Kiyré.
Ce port de plaisance a été imaginé en 2003. Il n'a jamais pu voir le jour, mais en juillet, la préfecture de Vendée a donné son feu vert. L'idée est donc de creuser la plage pour construire un chenal et permettre à 900 bateaux d'accoster. La préfecture estime que ce port est nécessaire pour renforcer le tourisme. La communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie applaudit. Elle estime que le bon sens finit toujours par l'emporter. Mais Nicolas Ducot, élu d'opposition à Bretignolles-sur-Mer, ne l'entend pas ainsi. Il dénonce un massacre écologique.
On a un réchauffement climatique, on subit les assauts de la mer de plus en plus forts à chaque tempête et on va à l'encontre à la fois des préconisations environnementales actuelles de l'État et aussi de la réalité du terrain. On coupe la plage, on fait croire à tout le monde que ça n'aurait pas d'impact et nous on prouve par A plus B que ça serait irréversible et avec des conséquences dramatiques à la fois sur l'érosion du littoral. On aurait bien sûr un impact sur la faune et la flore puisqu'on est sur un site qui est riche au niveau à la fois archéologique et puis floristique. Et faunistique, on détruirait toute l'attractivité de la commune.
Les écologistes de France Nature Environnement ou de la Ligue de Protection des Oiseaux sont également opposés à ce projet. Si la mairie déplace des espèces protégées comme elle l'a annoncé, les militants promettent de tout bloquer en formant une chaîne humaine sur la plage. Les travaux pourraient commencer avant la fin de l'année.
Attention au risque d'incendie, notamment en raison du vent attendu aujourd'hui. La totalité des 24 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône et 7 massifs du Var sont interdits d'accès aujourd'hui. Une petite colle, Pierre. Quel est le point commun entre Beethoven, John McEnroe, Barack Obama et Anthony Bélanger ?
Je peux ajouter deux noms, Paul McCartney, Jimi Hendrix.
Ah, ça me va, moi.
Hein. Ils sont gauchers.
Voilà, exactement.
Voilà, tous sont gauchers. C'est aujourd'hui leur journée internationale. Les gauchers représentent entre 10 et 15% de la population. Une minorité de moins en moins discriminée, mais qui galère parfois dans un monde conçu pour les droitiers. C'est Mathilde Dehimy.
La journée de Sébastien commence invariablement par replacer la souris du bon côté de l'ordinateur, sans résoudre tout à fait le problème.
Par contre, ce qui est gênant, c'est que le clic gauche, qui est le clic le plus utilisé, qui est sur le majeur et pas sur l'index.
Le gaucher, jamais bien positionné, pas toujours, répond Julien, souvent au téléphone.
C'est plus simple pour moi, le combiné est à gauche et le clavier est plus à droite. Donc parfois, c'est un avantage.
Et on est même parfois meilleur que les droitiers, sourit Julien.
Pour les instruments de musique, tout ce qui est guitare, violoncelle, contrebasse, moi je pense que c'est un avantage. La main gauche est plus souple.
Parfois, on s'y perd un peu, surtout avec une batterie, Sébastien.
J'étais un droitier des pieds, gaucher des mains. Ça s'est fait naturellement, quoi, en fait.
Car on peut être gaucher de l'œil, du pied et de la main. Une originalité synonyme de pâté à l'école.
Quand on écrit de la main gauche, on écrit avec un stylo à plume, avec de l'encre, on en fout partout. On n'est pas dans le bon sens, quoi. À part ça, ça s'est bien passé.
Il faut s'assumer sans pour autant consommer, dit Sébastien. Inutile d'acheter des ustensiles adaptés pour gaucher, souvent plus cher.
Le seul truc, c'est tout ce qui est ciseaux en plastique, qui a un arrondi pour la paume de la main, qui se met naturellement pour les droitiers et pas pour les gauchers. Mais ça me gêne pas plus que ça.
Et ne leur demandez pas pas s'ils sont gauches, maladroits ou s'ils se sont levés du pied gauche. Là est la vraie discrimination, disent-ils.
Voilà, en tout cas un sujet qui fait parler dans le studio. Et puis pour terminer, l'histoire de la chute brutale de l'homme le plus puissant d'Hollywood, l'intouchable Harvey Weinstein, sort demain sur les écrans français, un mois avant le début de son procès pour viol et agression sexuelle. Le documentaire donne la parole à celle et qui accuse le producteur américain. Il y a de nombreuses personnes qui l'ont côtoyé. Corinne Pellissier.
Certaines s'expriment ici pour la première fois, des femmes victimes de harcèlement ou d'agression, mais aussi d'anciennes collaboratrices qui décrivent tout un personnage puissant et respecté auquel il fallait plaire pour réussir à Hollywood. La réalisatrice Ursula McFarlane, qui a collecté ces témoignages, offre ici un éclairage inédit sur l'ascension, les revers de fortune et la chute d'Harvey Weinstein.
C'est un film qui parle de l'abus du pouvoir. Mais il fallait montrer comment ça s'est passé. Travailler chez Miramax, travailler chez le Weinstein Company, c'était fantastique. Il y a tellement de gens qui viennent à Hollywood pour faire leur carrière et c'était très très puissant.
Mais s'attaquer à la vie privée d'Harvey Weinstein n'était pas le défi le plus facile à relever. Sur les 400 personnes contactées, un quart seulement ont accepté de répondre à la documentariste. Des témoignages remplis encore après toutes ces années de culpabilité.
C'est toujours très lourd pour elle. Mais ce qui va être très très déprimant, c'est si les gens comme Harvey Weinstein ne vont pas en prison.
Plus de 80 femmes depuis le mois d'octobre 2017 ont accusé publiquement Harvey Weinstein de viol, de harcèlement ou d'agression sexuelle. Il risque à 67 ans la perpétuité.
Voilà, l'intouchable Harvey Weinstein, c'est à voir demain sur les écrans français.
C'était le journal de Corinne Audouin.